Voilà pour ces quelques mesures de Alice et June. C'était Indochine et puis on remercie Ludovic qui d'habituellement vous accompagne jusqu'à 17h exceptionnellement ce soir. Émission politique avec Kader Youb.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2.
Oui, émission spéciale. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Un petit peu plus tôt, bonjour Kader.
Bonjour Mamie, bonjour à tous.
Comme invité dans le cadre d'une émission spéciale consacrée aux élections régionales, donc Louis Alliot. Bonjour Louis Alliot.
Bonjour.
Oui, bonjour Louis Alliot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tête de liste régionale, liste Front National, présentée par Marine Le Pen. Marine Le Pen, pardon, vice-présidente du Front National. Vous êtes aussi député européen. Dois-je rajouter conseiller municipal à Perpignan ?
Je suis conseiller municipal à Perpignan, oui.
Et vous n'êtes plus conseiller régional d'opposition ?
Non, j'ai démissionné pour cause de cumul des mandats.
Bon, journée d'hommage aujourd'hui à Louis Alliot. La nation a rendu un hommage aux victimes des attentats perpétrés à Paris. Le président a promis solennellement que la France se ferait tout pour que cela ne se reproduise plus. Il a appelé à orner nos façades de drapeaux français en hommage aux victimes du 13 novembre. Vous vous en félicitez de cette démarche du président ?
On peut toujours se féliciter de tout ce qui va vers l'unité de la nation et la concorde entre citoyens français. Maintenant, je dois avouer que moi, je suis assez critique sur le fond, parce qu'on eût aimé que ce soit fait avant, tout simplement. Moi, je me rappelle, après l'affaire Mera, on a dit plus jamais ça, puis ensuite, il y a eu d'autres affaires, et puis enfin, l'attentat de Charlie Hebdo, avec un défilé national à Paris immense, tous les chefs d'État. Et je pensais qu'on avait pris la mesure d'un certain nombre de dangers qui pesaient sur la France. Et puis on se rend compte que finalement, on n'a pas trop changé de politique. Que ce soit en matière internationale d'ailleurs, qui est le fond du problème, ou que ce soit en matière nationale. Et c'est finalement, le drame, il est là. Il est qu'il aura fallu peut-être 130 morts à Paris pour que le président de la République et le gouvernement prennent la mesure des dangers et du danger qui pèse sur la France.
Les mesures, justement, celles qui sont annoncées, qui vont être mises en œuvre par le gouvernement, état d'urgence prolongé de 3 mois, perquisitions qui se multiplient, assignation à résidence, vous pensez que ce sont des mesures qui vont dans le bon sens, qui sont...
Il faut les prendre, mais on imagine mal de vivre des années avec dans l'état d'urgence. Il faudra donc avoir une autre politique, et cette politique aussi, elle est une politique internationale.
Voilà. Justement, comment, avant de revenir, je vais vous poser une question sur l'international, puisque Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, vous le savez certainement, a appelé, a fait un geste, a tendu la main au régime de Bachar al-Assad pour que ses troupes puissent venir en renfort des frappes aériennes de la coalition. Est-ce que c'est une sage décision pour vous ? Et comment, vous, au Front National, vous l'interprétez, ce geste envers Bachar al-Assad ? Un geste un petit peu... bref.
Mais écoutez, le problème, c'est que on est toujours en train de donner des leçons sur les droits de l'homme, la démocratie. Or, il faut reconnaître que dans les pays, dans le monde aujourd'hui, les démocraties sont, je vais pas dire qu'elles sont rares, mais dans cette partie du monde, elles sont rares. Mais la réelle politique, les intérêts de la France, c'est de discuter avec tout le monde. Parce que si vous discutez pas avec Bachar el-Assad, parce qu'il c'est un dictateur, vous ne discutez plus avec personne. Vous discutez plus avec les Chinois, vous discutez plus avec l'Arabie Saoudite, vous discutez plus avec le Qatar, vous discutez
On discute avec la Syrie. Enfin, on discute.
Non, mais pour dire, je pense qu'il aurait fallu discuter
discute
avant.
Avec la Russie, c'était ce
bien
que vous souhaitiez.
Bien sûr.
Est-ce que finalement, que vous reste-t-il dans votre discours géopolitique international ?
C'est-à-dire, ça, il faut le dire aux socialistes eux-mêmes. C'est eux qui sont venus sur ce que nous voulions, ce que nous appelions de nos voeux, c'est-à-dire une modification draconienne de la politique étrangère de la France. Et parallèlement à cela, et en matière de politique intérieure, ce que nous avions demandé, des moyens pour la justice, des moyens pour la police, des moyens pour l'armée, des moyens pour le renseignement français, un respect ferme de la laïcité. Et puis, comme je disais, c'est quand même lié au théâtre d'opération en Syrie. Je pense que l'aventure de Nicolas Sarkozy en Libye a mis le feu aux poudres, a déstabilisé. Les printemps arabes n'ont pas été ce que l'on pensait qu'ils seraient. Regardez ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. Et on voit bien que tous ces problèmes-là n'ont pas été réglés et qu'ils ont des conséquences. Et les conséquences directes, c'est les populations qui les paient. Et ces populations, malheureusement, elles sont poussées par la misère, par la guerre, à franchir d'une manière périlleuse la Méditerranée. Je rappelle quand même 5 000 morts en 2 ans sur la Méditerranée. Et puis d'arriver comme ça, de nulle part, avec le jeu trouble, encore une fois, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Turquie, voilà.
Face à l'afflux des réfugiés, hein, vous en parliez, que faut-il faire? Est-ce que Front National, vous avez une solution?
Il n'y a pas de solution miracle, mais c'est au moins bâtir des corridors humanitaires dans les pays de là où ils viennent. Mmh. On sait aujourd'hui qu'en Libye, il y a des marchands, des marchands de clandestins, voilà, des migrants, ils font du trafic de migrants, comme d'autres font du trafic de drogue. On les met sur des bateaux, on leur fait payer 1000 dollars la traversée.
C'est une conséquence, mais...
Oui, mais d'accord, mais il faut l'arrêter.
À l'origine, il y a une détresse des gens qui fuient la guerre.
Oui, mais il fuit la guerre que nous avons pratiquement initiée. C'est ça, le drame. C'est comme un peu dans tous ces pays d'Afrique où nous soutenons systématiquement les dictateurs ou les mafias en place, où la population ne voit jamais le bénéfice des richesses qui existent pourtant dans ces pays. Et malheureusement, il faut reconnaître qu'il y a une collaboration des États occidentaux avec ces dictatures. Il faut que ça s'arrête. Voilà. L'Afrique, elle est majeure. À mon avis, elle est tout à fait capable. Les Africains sont tout à fait capables de se gérer. Il faut maintenant parler à des gens raisonnables, des gens honnêtes, et pas maintenir en poste soit des dictateurs, soit des mafias, mais qui poussent les pauvres gens à la misère et à l'exil, et qui maintiennent chez eux, on voit bien, des régimes autoritaires et corrompus, tout simplement.
Le rendez-vous politique avec Kader Youb reçoit aujourd'hui Louis Alliot, tête de liste régionale. Un petit peu de pub, et puis justement, on passe au régional dans un instant.
Évidemment, oui.
CFM à Castelsarrasin. Castelsarrasin. 90.7. 90.7.
Les 5 et 6 décembre prochains à Bruniquel se dérouleront les 11e rencontres des métiers d'art. Dans les salles des deux châteaux, découvrez le travail de 14 artisans d'art. Potiers, couteliers, tourneurs sur bois, maroquinières, feutrières et bien d'autres. Au cœur de l'hiver, profitez d'une balade dans le beau village de Bruniquel pour faire des achats de Noël originaux à l'occasion des rencontres des métiers d'art. Les 11e rencontres des métiers d'art à Bruniquel, les 5 et 6 décembre de 10h à 18h. Entrée libre et gratuite, restauration sur place. Retrouvez-nous sur la page Facebook Métiers d'art Bruniquel.
Le jeudi 17 décembre, la ville de Montauban vous invite à célébrer la 10e édition de la course de Noël. Au programme, deux parcours sont proposés. Les foulées de Noël, course de 3 km, ouverte aux enfants accompagnés de leurs parents, et la course de Noël de 6 km, ouverte sur inscription uniquement. Pour relever ce challenge, il est vivement recommandé de venir déguisé, bonnet rouge de Père Noël offert par la ville. La 10e édition de la course de Noël, c'est jeudi 17 décembre à 19h30. Bulletin d'inscription téléchargeable sur montauban.com. Renseignements au 05 63 91 78 22.
On Live, un groupe, un concert, une heure, une fois par mois.
Vous êtes à l'écoute. Oh là là, quel bruit. Vous êtes à l'écoute du groupe Yellowstone de Villefranche de Rouergue. Merci à tous. Gros bisous.
Diffusion du concert du Yellowstone Band vendredi 27 à 19h en CFM. Une émission parrainée par les Cuisines Schmitt.
Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Retour à notre émission spéciale consacrée aux élections régionales. Donc émission spéciale en compagnie de Louis Alliot, présenté toujours par Kader Youb. Louis Alliot, Marion Maréchal Le Pen a déclaré que si elle était élue en région PACA, elle ne donnerait plus de subventions à des associations comme les plannings familiaux parce que c'était des associations politisées. Est-ce que vous feriez pareil si vous étiez élu en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, et par extension, qu'est-ce qu'une association politisée?
Oui, mais c'est d'abord, je ne sais même pas si la région abonde le planning familial. Je ne suis pas persuadé parce que vous savez que les compétences de la région sont très limitées.
Pas qu'à, oui.
Non, non, mais même ici, je ne sais pas si la région Midi-Pyrénées finance le planning familial. Mais si vous voulez, les associations politisées, quand vous bénéficiez de l'argent public, vous vous adressez à tout le monde, y compris à ceux qui votent pour le Front National. Or, c'est vrai que des associations comme le Planning Familial ou comme SOS Racisme ou comme la LICRA, des choses comme ça, systématiquement appellent avec la CGT et d'autres syndicats à manifester contre le Front National, etc. Je pense que c'est hors champ de leurs compétences. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que le problème n'est pas là, que c'est du coût dérisoire et que dans tous les cas, la région doit surtout se préoccuper du fonctionnement des lycées et elle n'a pas la compétence pour s'occuper du fond des affaires du lycée.
Mais c'est juste pour rappeler que la radio dans laquelle aujourd'hui vous vous exprimez est aussi une radio associative, qu'il y en a 650 partout en France, et que certaines sont politisées, d'autres pas.
Oui, mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. Il y a quelquefois communautaire. Je vous signale que On est les seuls
ou confessionnal.
On est les seuls à pas être invités, par exemple, sur les radios de la communauté juive, par exemple. Ce que je déplore, moi, parce que moi, j'aurais des choses à leur dire, hein, alors que nous sommes invités sur Beurre FM, quelquefois.
Et alors,
vous voyez bien
qu'il
y a des différences de traitement entre... Mais c'est pas pareil. La région, elle, demain, elle aura des compétences fixes, notamment sur le développement économique. Moi, comme j'ai dit, en matière de culture notamment, je ne suis pas un coupeur de tête. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Simplement, je pense qu'il y a des bornes à ne pas dépasser, mais je pense que ce n'est pas le rôle du président de région de se préoccuper de ces choses-là. Après tout, c'est les électeurs qui font les listes et c'est pas le reste. Quoi,
Pardonnez-moi, le développement culturel, c'est une des prérogatives, une des compétences de la région.
Et, pardon ? Dans la nouvelle loi, non.
Non, mais enfin,
pardon.
La culture, on sait toujours que la région est un gros financeur des festivals.
Des festivals, bien sûr. Oui.
Justement, le monde culturel s'inquiète un petit peu de...
Mais il a tort. Très honnêtement, il a tort. Parce que moi, je considère que la culture, justement, alors évidemment, il y a des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas. Mais moi, je considère que c'est ce que je vous dis, il en faut pour tous les goûts. Voilà. Moi, je ne vais pas faire la chasse à un festival qui ne me plaît pas, sauf si, bien sûr, comme ça s'est vu dans certaines régions, et des expositions pédopornographiques, par exemple. Là, évidemment, je réserverai le financement de la région à ce genre de choses. Mais pour le reste, que ce soit de la country musique, du rap, il en faut de l'art contemporain ou de l'art plus classique. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts. J'ai même proposé, moi, vous savez que je viens de Perpignan, qu'on lance un grand festival mondial de la musique gitane. Parce que nous sommes l'une des plus vieilles communautés sédentarisées d'Europe, et ça n'existe pas. Or, je pense que là, il y a une richesse culturelle et musicale que nous devrions développer. En tout cas, moi, je m'engage à le faire. Voilà un exemple.
Louis Alliot, vous êtes donné, enfin, les derniers sondages vous donnent en tête du premier tour, au soir du premier tour. Est-ce que vous n'aurez pas des difficultés à passer le pas? Vous faites toujours des scores assez importants. Enfin, vous êtes donné à avoir un score important au premier tour. Et vous passez pas le cap au second tour. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci sera la bonne, ou vous pensez que vous buterez toujours à la marche première marche?
Bah écoutez, ça dépend aussi des adversaires. C'est vrai qu'on a affaire à un éclatement de la gauche, hein, quand on voit les scores du Parti Socialiste dans notre région, qui tient quand même ces deux régions et qui est en dessous de 20%. On voit très bien que la gauche a d'énormes difficultés, qui tient au bilan national autant qu'au bilan local. On voit que M. Rény à droite, eh bien, lui aussi est en perte de vitesse. Donc moi, je pense que j'ai toutes mes chances.
C'est-à-dire que vraiment remporter la région.
Plus on
très honnêtement, est-ce que vous pensez vraiment faire le plein?
Oui. Je pense que si on dépasse les 30% au premier tour, ce que l'on va très certainement réaliser, le deuxième tour sera très ouvert parce que ça se jouera entre 36 et 38%. Et là, il y a des abstentionnistes, beaucoup, qui verront qu'il y a un enjeu. Battre la gauche, pour le coup. Et puis, il y a Monsieur Rény. Monsieur Rény n'aura aucune chance de remporter cette région. Il y a un électorat clairement de droite, et cet électorat clairement de droite devra, à mon avis, en partie, aura la possibilité en tout cas de se reporter sur notre liste.
Est-ce qu'il n'y aura pas de scrutin dans un seul avec des chiffres complètement différents de ce qui se passera en Languedoc-Roussillon, l'ex-Languedoc-Roussillon?
Ben, je pense que oui, il y aura un différentiel, mais on voit un lissage des scores du Front National aujourd'hui sur l'ensemble du territoire.
Vous pensez qu'il y aura un lissage du Front National?
Ah oui, regardez ce qui se passe en Île-de-France, c'est la région la plus difficile pour nous.
Oui, avec aujourd'hui, le juste est à 19-20.
Laissez-moi vous dire que c'est extraordinaire pour la région. Donc nous, on sera très certainement à Midi-Pyrénées au-delà de 25. Et donc, moi, je vous dis que pour le deuxième tour, les jeux sont ouverts. Voilà. Alors, je vous dis pas qu'on va gagner, mais je dis que les jeux sont très ouverts.
Alors, vous gagnez
pour cette élection.
Quels seront vos projets?
Le premier,
sur la ruralité, c'est ça?
Voilà. Moi, le premier, c'est sur la revitalisation rurale et le rééquilibrage territorial. Toulouse et Montpellier sont en train d'aspirer les forces vives des territoires. Il faut redonner une respiration au territoire, un développement économique, s'orienter sur les très petites entreprises, le commerce, l'artisanat, l'agriculture, se préoccuper.
Mais c'est-à-dire que vous redirigerez, les aides aux entreprises uniquement sur les territoires ruraux et que vous laisserez de côté les grosses métropoles.
C'est-à-dire qu'avec la loi NOTRe, les métropoles vont avoir aussi des compétences propres. Donc elles vont pouvoir s'occuper de leurs affaires sur leur territoire et la région va pouvoir s'occuper des territoires un peu abandonnés. Et ça, c'est une donnée fondamentale.
Vous pensez que pourront s'articuler ces politiques, justement, des métropoles, des départements, de la future grande région?
Moi, je pense d'abord que chacun ne pourra pas travailler sans la coopération avec les autres. Ça paraît évident. Donc, il faudra discuter, évidemment, la métropole toulousaine, la métropole de Montpellier, la communauté urbaine de Perpignan, et mettre en synergie tous ces territoires. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir, puisqu'il n'y a plus la clause générale de compétences, rassembler les moyens financiers sur les aides aux entreprises, sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage, parce qu'il y a des jeunes aussi. Il y a beaucoup d'emplois. Et en face, quelquefois, il n'y a pas les candidats pour ces emplois-là. Eh bien, il va falloir mettre en adéquation les emplois avec les formations proposées. Et puis, la région, c'est aussi les lycées. Il y a des nouveaux lycées à construire. Il y a des transports, des fermetures, quelquefois, de lignes ferroviaires. Et moi, je suis pour le maintien des services publics sur l'ensemble des territoires ruraux. Parce que, bon, voilà.
Service public, c'est l'État.
Non, mais non. Le train, c'est la région.
Oui, alors.
Et le drame, c'est que l'État se désengage sur d'autres sujets, les hôpitaux, par exemple. Mais on s'aperçoit que quand on manque d'hôpitaux dans la ruralité, mais vous avez le troisième âge et quelquefois la jeunesse qui manque de soins. Et il va falloir créer des maisons médicales.
Et qu'elles existent.
Ils commencent à en faire, c'est vrai. Mais il va falloir aller beaucoup plus loin de ce côté-là parce qu'on est vraiment dans des endroits, je pense, dans le Comminges, par exemple, la Haute-Garonne, en sous-effectif en matière
alors,
quand d'offres.
Quand on vous écoute développer votre projet, on a, hormis quelques différences avec les autres candidats, Philippe Sorel ou Carole Delga ou Dominique Rignan, on a quand même le sentiment, développement, vivification du, redensification du territoire rural, faut pas les oublier.
Mais c'est-à-dire qu'on est d'ici, je suis d'ici,
oui, moi aussi.
Je sais bien, mais je veux dire, moi je suis d'Axe-les-Thermes, j'ai vu tous ces services publics reculer au fur et à mesure, j'ai vu des emplois perdus.
Vous pensez vraiment qu'ils reculent ou c'est pas aussi un jeu que de vouloir faire peur aux gens?
Ils reculent, clairement, dans la loi. Autre, des perceptions vont fermer, des gendarmeries vont se restructurer et fermer. Tout cela, il va bien falloir l'empêcher.
Il faut mutualiser. Vous savez qu'on est dans une période de budget contraint.
Oui, mais, c'est la différence de logique qu'il y a entre le service public et le reste. Si vous mettez une notion de rentabilité, à ce moment-là, effectivement, il faut fermer les services. Moi, je dis que même si une ligne ferroviaire, elle est déficitaire, si elle apporte un service public qui est celui de se déplacer d'un endroit à un autre sur la région, eh bien, il faut faire l'effort de dépenser de l'argent pour amener le train à cet endroit-là.
Alors, vous êtes d'accord avec Gérard Onesta et Carole Delga sur ce sujet? Qu'est-ce qui vous différencie
Ces choses-là, pas grand-chose, en fait. Mais la différence, c'est que l'Onesta, il est premier vice-président de la région Midi-Pyrénées. Et donc, il a les affaires en main, et il n'a pas fait ce pourquoi les électeurs l'ont poussé, pour une raison simple, c'est que l'Onesta du premier tour n'est pas jamais le Onesta du deuxième. C'est-à-dire, il a son électorat de premier tour, il développe une thématique sur le développement durable, l'écologie, etc. Très bien, parfait. D'ailleurs, il est assez bon sur ça. Il a des idées sur l'aménagement du territoire. On se rejoint sur beaucoup de points. Mais dans le deuxième tour, il est obligé d'aller s'allier avec le Parti Socialiste et de passer sous les fourches caudines du Parti Socialiste. Voilà.
Ce que vous ne pourrez pas faire avec Dominique Rénier qui a exclu.
Non.
Vous ne le ferez pas.
Non.
Même si vous le demandez.
Ne vous inquiétez pas, il ne demandera pas.
Il ne demandera pas. Louis Alliot, lorsqu'on vous écoute, je le disais il y a quelque temps, on a le sentiment que sur la politique régionale, peu de choses vous différencient. Est-ce qu'il n'y a pas, si vous pouviez le dire hors micro, peut-être vous nous le diriez, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie finalement de gagner ou d'être présent le plus possible dans le scrutin régional pour mettre sur orbite, Marine Le Pen pour la présidentielle de 2017 et que finalement ce n'est que ça.
Je crois que c'est pas du tout les mêmes élections. Voilà, c'est pas du tout les mêmes élections. Le problème, il est qu'il y a une logique aujourd'hui avec cette loi NOTRe qui est une logique territoriale. Il va falloir réussir la fusion parce que la fusion aujourd'hui c'est pas facile. Mélanger Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, c'est loin d'être facile. Donc déjà, la priorité du futur exécutif de région, c'est réussir la fusion. C'est réussir l'aménagement du territoire et c'est relancer l'économie locale. C'est un vrai projet. Moi, si demain je suis élu président de région, j'arrête d'être député européen et j'arrête de me consacrer à Perpignan, par exemple. Je me consacre à la région. Mais si vous voulez, c'est pas le projet présidentiel que je défends ici.
Vous répondez pas tout à fait à ma question.
Mais c'est pas le projet présidentiel que je défends ici.
Ce qui vous différencie, votre credo, votre ligne directrice.
Non, il y a beaucoup de choses qui nous différencient.
Certes, mais votre ligne directrice, c'est la préférence nationale.
La préférence nationale,
c'est l'application. Vous ne pouvez pas l'appliquer en région.
C'est l'application. En revanche, et d'ailleurs, vous avez vu que Madame Delga s'est mise au diapason. Elle défend le patriotisme économique. Ça, on peut le faire. C'est-à-dire que sur les marchés publics qui dépendent de la région, vous pouvez favoriser les entreprises de la région.
Oui.
C'est une forme de préférence régionale et de préférence à l'emploi régional. Et de la même manière, les circuits courts agricoles, découler les productions locales dans les lycées de la région ou dans les collectivités territoriales de la région, plutôt que d'importer, je ne sais pas moi, du bœuf d'Argentine, du poulet du Brésil ou de l'agneau de Nouvelle-Zélande, c'est aussi quelque chose qui fait partie du patriotisme économique et qu'on peut mettre en application.
Alors je suis un peu comme Kader, depuis tout à l'heure, je cherche, mais où est la différence finalement? Qu'est-ce qui va faire que je vais voter plus pour vous que pour Carole Delga ou Gérard Onesta?
La différence, c'est qu'eux sont aux affaires, ils ne l'ont pas fait. Voilà. Moi, j'ai des exemples de chantiers très précis où ils ont donné les marchés à des entreprises venues d'ailleurs, quand il n'y avait aucune raison de les donner à des entreprises venues d'ailleurs. Le clientélisme. Attendez, la future loi qui arrive, on n'a plus le droit de distribuer l'argent comme il le faisait, Monsieur Malvy ou Monsieur Allary, aux amis, aux mairies amis, aux associations.
C'est une loi du.
C'est terminé.
Ça vous plaît, la suppression?
Bien sûr, c'était une demande de beaucoup d'élus, y compris de nous. La fin de la clause générale de compétence, c'est essentiel.
C'est essentiel. Voilà. Sur quelque chose qui est essentiel ici et dans notre grande future région, c'est l'agriculture. Alors, vous parlez, lorsqu'on parle d'agriculture, vous parlez souvent de la PAC, de rediriger des crédits. Comment faire, lorsqu'on est président de région, pour influer sur la politique agricole commune?
Bon, ça, influer, c'est après une notion de lobbying à Bruxelles. Mais ce que vous pouvez faire ici, tout de suite, c'est pas d'influer sur la PAC, malheureusement. C'est de développer les circuits courts. C'est-à-dire de mettre une plateforme régionale qui permet d'identifier les productions locales et de leur trouver un débouché sur le terrain. Et en luttant d'ailleurs contre un élément, moi je le vois sur le terrain discutant, contre les grandes surfaces. Il y a normal, un exemple tout simple, que vous aviez un producteur de kiwi qui vend son kilo de kiwi à 0,75 centimes le kilo, et que vous ayez la grande surface à côté qui vende le kiwi à 75 centimes pièce. Ça, voilà, c'est quelque chose contre lequel on peut lutter par le développement des circuits courts et par l'écoulement de la production directement aux consommateurs. On peut le faire.
Dans la mandature écoulée, celle de Martin Malvy, s'il y avait un projet, un dossier qui vous tient particulièrement à cœur et que vous ne bougeriez pas, vous ne toucheriez pas si...
Je pense que c'est la politique des lycées. Moi, j'ai siégé à Midi-Pyrénées. Je pense que Malvy... Mais c'est toujours pareil. Un lycée, c'est pas de droite ou c'est pas de gauche quand vous créez un lycée. Mais je pense que c'est quelque chose qui a été bien fait par la région en matière de rénovation, d'implantation, de financement. Tout ça a été relativement bien fait. Même sur l'ordinateur, vous avez vu le débat qu'il y a eu pendant la régionale.
Vous êtes contre.
Parce qu'en Languedoc-Roussillon, ils donnent un ordinateur gratuit à tous les lycées. En Midi-Pyrénées, c'est pas la même chose. On ne les donne qu'en fonction des ressources des parents. Moi, je suis évidemment...
Alors, vous préférez en fonction des ressources?
Bien sûr, voilà.
Tout ça, tous ces projets coûtent de l'argent. Vous avez... vous connaissez la situation. Comment faire pour...
D'abord, il y a deux choses. Il n'y a pas de fiscalité propre à la région. Donc, on est obligé de faire avec le budget...
Vous voudriez lever l'impôt?
Ben, au regard,
ce serait votre souhait.
Moi, je souhaiterais le faire parce que je pense qu'on serait assez économe, mais heureusement, peut-être qu'il n'y a pas eu d'impôt local, parce que quand on voit la fiscalité telle qu'elle a augmenté dans les communautés de communes et dans les mairies, on se dit que peut-être qu'heureusement que la région n'avait pas le droit de lever l'impôt.
Mais est-ce que dans le processus, après, je vous laisse développer, mais dans le processus de décentralisation, est-ce que la possibilité de lever l'impôt une région, c'est quelque chose qui manque?
Oui, je pense qu'il n'est pas raisonnable de laisser finalement à l'État le soin de donner une dotation globale de fonctionnement chaque année, parce que l'État se défausse de plus en plus sur les régions et sur les collectivités, mais donne de moins en moins d'argent. Et donc les régions sont obligées d'ailleurs de faire des choix, des économies. Ça a une vertu.
Alors, venons-en aux économies.
Et la loi NOTRe, elle a réglé le problème, puisqu'il y a les compétences principales, et puis il y a les compétences annexes, et il faudra faire des choix, c'est-à-dire d'éviter de gaspiller l'argent public, comme je le disais tout à l'heure.
Monsieur Alliot, vous supprimerez des fonctionnaires?
Non, je ne remplacerai pas les départs à la retraite. Voilà, ça c'est un gros sujet d'économie, et dans tous les cas, cette fusion a été voulue pour ça, puisqu'on a voulu faire des économies d'échelle, et en fusionnant les administrations, en réorientant les directions régionales, il va se trouver des emplois qui seront à redéfinir et à relocaliser sur l'ensemble du territoire. Donc pas de remplacement des départs à la retraite.
Il reste 3 minutes à notre entretien, Louis Alliot.
La localisation de la future capitale régionale, l'État a tranché pour Toulouse, est-ce anecdotique pour vous, Louis
Alliot? Non, pas du tout. Je pense que c'est la capitale de la région. C'est la quatrième ville de France et ça ne fait aucun doute. Historiquement, c'est Toulouse. On est en Languedoc. Le plus épineux problème de cette région aujourd'hui, c'est pas tant la capitale. Tout le monde est d'accord. Même le maire de Montpellier est d'accord pour que ce soit Toulouse. C'est le nom. Voilà. Et sur le nom, il faudra que l'on fasse, je pense, une consultation générale à la fois des populations et des élus locaux pour savoir quel nom nous allons donner à cette région, parce qu'entre Occitanie...
Alors pour le coup, c'est quand même anecdotique.
Mais figurez-vous que non, parce qu'on vous dit aujourd'hui, quand vous rencontrez les chambres de commerce, quand vous rencontrez les syndicats, quand vous rencontrez, ils vous disent que c'est aussi un argument de se faire connaître à l'étranger dans le monde dans lequel on vit. Et donc, c'est pas aussi anecdotique que cela. Certains voulaient Sud de France. Moi, j'y suis pas favorable. D'abord parce que l'acronyme, ça fait SDF. Ensuite, voilà, il faut à mon avis populariser alors Occitanie, mais c'est plus historiquement c'est plus grand que ce que c'est. Le Languedoc, c'est le Languedoc, mais on oublie le pays catalan et les Catalans vont pas être contents. Voilà, moi je soutiens ou Languedoc-Roussillon ou Occitanie pays catalan. Mais maintenant, encore une fois, je pense que c'est la population qui devra choisir.
Je pensais que vous alliez me dire Septimanie.
Non, je suis pas Georges Frêche. Non, mais encore historiquement, il avait raison.
Vous pourriez vous en inspirer de Georges Frêche.
Oui, bien sûr. Mais tout n'était pas mauvais chez Georges Frêche.
Hein. Il reste peu de temps, une minute et demie. On n'a pas parlé de la ligne LGV, alors qu'habituellement, c'est quelque chose qu'on aborde forcément.
LGV...
Le problème, c'est qu'on change de paradigme. Ouais. Si on avait fusionné Midi-Pyrénées-Aquitaine, le Bordeaux-Toulouse devenait essentiel. Ouais. Maintenant qu'on a fusionné Montpellier...
Il y a deux priorités.
La priorité, c'est Toulouse-Montpellier.
Ah, c'est Toulouse-Montpellier.
Ah, aujourd'hui, oui, c'est clairement. Et la deuxième priorité, c'est Perpignan-Montpellier, parce que les Espagnols ont mené le TGV à Perpignan, et le grand axe européen, il est Barcelone-Perpignan-Montpellier-Montpellier-Paris.
Ouais, que faisons-nous pour Toulouse-Bordeaux-Toulouse?
Non, mais Bordeaux, ça y est, c'est décidé.
Oui, décidé. Les financements n'y sont pas. Encore,
mais ils sont nulle part, les financements, c'est bien le problème. Mais là, c'est les élus locaux, il va falloir quand même qu'ils secouent les plumes, excusez-moi du terme, de Bruxelles. Bruxelles a voté, je crois, l'idée, la commission a décidé 11 milliards d'euros pour les lignes à grande vitesse d'intérêt européen. Je pense qu'il faut mobiliser maintenant la Commission européenne pour qu'elle débloque des fonds, parce que cette ligne, ce désenclavement du sud de la France, il est essentiel au développement de l'Europe.
Merci.
Merci.
Merci Louis Alliot d'être passé dans les studios de CFM Montauban à l'occasion de votre venue à Montauban pour un meeting qui a lieu ce soir à 19h. Hein, c'est ça. Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Voilà, vous êtes bien sur CFM Radio, on reprend la suite habituelle de nos programmes dans quelques instants. Après les infos de 17h, eh bien on se retrouve avec le magazine du Tarn-et-Garonne consacré à notamment Agnès de Sarthe ce soir dans le cadre du festival Lettres d'automne.